Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Voilà pour ce récit haletant que je sors directement de votre livre Sébastien Spitzer, Dans les flammes de Notre-Dame, qui paraît chez Albin Michel. Quelle a été votre méthode de travail? Je précise d'ailleurs que je n'ai pas repris la totalité du livre. Il y a d'autres points de vue, d'autres personnages, celui de Anne Hidalgo, celui des journalistes qui annoncent et font vivre l'événement à la télévision. Je me suis concentré sur place, j'ai envie de dire. Quelle a été votre méthode pour arriver à reconstituer minute par minute ce qui s'est passé?
Ma méthode a été empirique. J'ai pas voulu faire une enquête, j'ai pas voulu être exhaustif. Je suis allé voir les pompiers parce que j'avais pas mal d'amis qui étaient pompiers. J'ai été journaliste pendant des années, je les ai suivis, j'ai dormi à la caserne, j'ai décalé avec eux dans leur camion, je les connais. Mmh. Et le lendemain de l'incendie, je les ai appelés pour prendre des nouvelles et ce qu'ils ont commencé à me raconter m'a stupéfait. Et donc j'ai voulu en savoir plus. Pas comme un livre d'enquête, mais comme un recueil de témoignages qui me permettait de palper la réalité.
Tu parles facilement ? Parce que ce sont des militaires, hein, les pompiers de Paris, c'est un cas à part avec ceux de Marseille.
Alors les premiers coups de téléphone ont été spontanés et faciles. Et ensuite, quand ça a été plus systématique, là, il a fallu obtenir des autorisations nécessaires, notamment par le biais de l'état-major.
Ils sont tenus au devoir de réserve.
Il y a un devoir de réserve. Ce sont des soldats du feu, une brigade créée par Napoléon et qui est régie par toutes les lois qui correspondent à la Grande Muette. Hein. On n'interviewe pas les militaires comme ça, donc il a fallu prendre du temps. Mais
vous pensez qu'ils vous ont tout dit? Ou qu'ils ont laissé certains épisodes de côté?
Je sais pas. En tout cas, ce qu'ils m'ont dit m'a...
Dans vos yeux, à l'instant, je viens de lire oui. Hein.
Ce qu'ils m'ont dit m'a stupéfait, ce qu'ils m'ont dit m'a comblé, ce qu'ils m'ont dit m'a suffi parce que c'était humain, infiniment humain. Vous avez retenu le personnage de Myriam. Ouais. Myriam, c'est un petit bout de femme. Elle a 25 ans. Elle est dure comme le fer, elle a un mental d'acier et c'est la première à se rendre sur place. Myriam a 25 ans. Quand elle était plus jeune, elle rêvait d'être pompier. Elle est née à Arras, elle passait par la place des héros quand elle rentrait chez elle. Et elle est la première à monter là-haut. Et imaginez-vous quoi? Cette femme, Myriam, avec son nom symbolique, Myriam, c'est Marie. Mmh. C'est la Marie de la Bible qui va sauver Notre-Dame. Quel premier symbole fou! Eh bien, Myriam, elle est là-haut, perchée sur Notre-Dame, entre le vide et le néant. Le néant, c'est le brasier. Et le vide, c'est l'altitude, quoi. C'est les 45 mètres qui les séparent du sol. Et elle va y aller.
Alors, prenons l'intervention d'abord des pompiers de cet équipage qui arrive de la caserne voisine, qui est donc à 900 mètres. Ce qu'on perçoit dès le début de ce récit, c'est que le problème, il vient de la sécurité de Notre-Dame, qui met 28 minutes, ça paraît surréaliste, à comprendre et à appeler les pompiers. On se demande s'ils n'auraient pas pu appeler les pompiers avant de comprendre.
Mais c'est le départ du feu, c'est le départ du drame. Vous savez, Victor Hugo disait, dans tous les drames, comme dans la réalité, il y a du grotesque et du sublime. Oui. Le grotesque, il s'est logé là-dedans, dans ce petit boîtier. Mmh. En fait, il y avait un message d'alerte. Zone, nef, sacristie.
Mais tout le monde savait que ça désignait pas la nef et la sacristie.
Bah, pas tout le monde. Pas ceux qui ont fait le tour
pas
du
ceux
feu.
Qui sont là.
Les agents de sécurité, ceux qui sont chargés de se présenter tout de suite quand il y a un incendie. C'est un nouveau, c'est un petit gars qui a été embauché la veille. Ouais. Il voit sur le boîtier cette alerte-là, ce message-là, et il monte dans la sacristie. Mais la sacristie, c'est le petit bâtiment qui est à côté de Notre-Dame. Ouais. Alors que le feu s'est déclenché sous le toit de Notre-Dame. Ouais. C'est une erreur d'appréciation, de nomination, hein, une erreur d'appellation zone nef sacristie qui va entraîner cette perte de temps phénoménale. Et vous savez, les pompiers disent une chose. Ils disent que pour éteindre un incendie, au bout d'une minute, il suffit d'un verre d'eau. Au bout de deux minutes, il faut un seau. Au bout de 3 minutes, il faut une tonne. Alors imaginez la quantité de flotte qu'il a fallu au bout de 20 minutes.
Y a un côté très dérisoire dans l'arrivée de ce premier équipage. On comprend pas bien, s'il y a le feu à Notre-Dame, c'est pas un camion. C'est-à-dire que normalement, ils doivent tous arriver en même temps. Ils arrivent tout seuls. Alors évidemment, bon, les autres suivent assez vite, je pense. Mais ils arrivent tout seuls. Un petit camion de pompiers avec ces trois pompiers qui s'engagent dans la tour nord, c'est dingue.
Ils arrivent les premiers, mais très vite, ils font le tour du problème. Et ils sont très vite rejoints par leurs collègues. Mmh. Il y a Myriam, primo intervenante. Et puis au sol, il y a une autre équipe. Au sol, il y a un pompier qui s'appelle le lieutenant Julien, qui va rentrer par le portail principal, hein, qui va lever les yeux au ciel et qui va voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un crépitement au-dessus de ce toit. Et puis, le toit s'effondre. parce que c'est la flèche qui vient de s'effondrer. Et il me dit, une fois qu'il a vécu ça, il me dit, ce jour-là, Sébastien, j'ai vu, en levant les yeux au ciel, en levant les yeux en haut, sur le toit de Notre-Dame, j'étais dessous et je me suis dit, c'est le diable qui est en train de nous vomir dessus toutes les flammes de l'enfer. Vous voyez ces images-là fortes. Ils ont tous été très marqués par la symbolique, par la puissance de cet incendie, pas par sa difficulté technique à l'appréhender, à en faire le tour, mais par tous les symboles que ça générait. Et le diable, vaincre le diable. Vous savez, les pompiers sont des soldats du feu. Ils sont là pour vaincre un ennemi. Ce jour-là, leur ennemi était diabolique. Il avait une bouche énorme et il vomissait sur eux toutes les flammes de l'enfer.
Alors ce qu'on perçoit aussi, c'est que le fait que les pompiers se soient entraînés, et ces pompiers-là, se soient entraînés régulièrement à Notre-Dame, qui connaissent la cathédrale, est essentiel. C'est-à-dire que Myriam, elle sait précisément où sont les colonnes sèches auxquelles elle peut connecter sa lance pour faire monter de l'eau et arroser l'incendie. Elle le sait.
Vous l'avez très bien dit, hein, 6 mois plus tôt, quelques mois plus tôt, ils vont faire des repérages, ils en font régulièrement dans la cathédrale, elle en a le plan dans la tête, elle la connaît par cœur, sa cathédrale. Simplement, quand il faut monter par ce petit escalier par lequel elle accède au toit, l'escalier il est tellement étroit qu'il y a une seule personne qui peut tenir à la fois.
Mmh. Avec son bardard, on voit bien à quoi il ressemble cet escalier.
On voit bien à quoi il ressemble, ouais. Hein. Étroit, c'est un petit sas en pierre. Mais avec tout le matériel, 20, 30 kilos qu'elle a sur le dos, et puis cette lance qu'elle va porter, et puis l'urgence de la situation, eh ben, ces marches, faut les monter, faut aller jusqu'en haut. Et puis après, ce qu'elle découvre, ces flammes immenses, c'est invraisemblable.
Parce que ça, c'est une morale qu'on peut d'ores et déjà tirer, c'est que c'est l'entraînement des pompiers sur ce site, dans les années qui précèdent l'incendie, qui leur permettent d'être efficaces ce jour-là. Et que donc, sans doute, il y a la tentation de dire, on va pas encore aller Notre-Dame cette année, on y est déjà allé l'année dernière. N'empêche que, à ce moment-là, elle sait où est la porte, elle sait où sont les colonnes sèches, elle sait comment monter jusqu'à la corniche, elle sait tout ça.
Elle sait tout ça et ses chefs savent tout ça. Ouais. Ils ont des plans d'évacuation, de lutte contre l'incendie en cas d'incendie de Notre-Dame, en cas d'incendie du toit, en cas d'incendie de la forêt. Ils savent très bien ça, ils ont imaginé ce scénario. Ils l'ont imaginé.
Le meilleur moyen d'être efficace pour un pompier, c'est d'avoir répété dans ces lieux très fragiles.
C'est ce qu'ils ont fait plusieurs fois. Simplement, vous savez, Christophe, les militaires, ils ont tous ça en tête, que les plans de bataille sont faits pour être balayés le jour de la bataille. Et là, quand l'incendie prend
vraiment,
quand l'incendie se déroule...
Quand c'est pas un fumigène d'entraînement.
Il y a un facteur qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'est le vent. Et le vent qui va pousser cet incendie vers la tour nord, vers le clocher.
Et donc vers eux.
Et vers eux, et vers le clocher, et vers ces énormes cloches-là qui risquent de s'effondrer, et en s'effondrant, d'entraîner avec elles tout Notre-Dame. Mmh. Et là, ils ont les jetons. Et là, le général Gallet a mesuré la difficulté qui se présentait à lui. Et quand il va ensuite s'enfermer dans une salle de la préfecture juste en face, avec le Premier ministre, avec le Président de la République, ils n'en menaient pas large. Il paraît que le Premier ministre était en larmes à ce moment-là.
Alors parlons du curé, de ce père Fournier, qui est donc aumônier militaire, à la fois... soldats, pompiers et prêtres. Bon, faut sans doute pas trop personnaliser la chose. Il n'est pas le seul à intervenir. Il y a, vous le racontez, une brigade de sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers du Louvre, qui donc sont déjà des gens habitués à manipuler des œuvres d'art, qui sont là avec la liste des objets à sauver.
Oui, ils ont tout inventorié. Ils savent très bien ce qu'il faut aller chercher, à quel moment, et pour la plupart, où exactement. Simplement, comme vous l'avez raconté, le père Fournier, il y a un moment d'hésitation. Mais où est-ce qu'elle est, la couronne du Christ? Parce qu'il y a une fosse et une vraie.
Ouais.
Donc, fosse est dans la sacristie et la vraie est tout au fond de la cathédrale.
Et peu de gens savent où elle est en vérité.
Oui, oui, c'est ça. Elle est présentée une fois par an par toute l'équipe de Notre-Dame, par Monseigneur Chauvet. Mais à ce moment-là, il y a un tâtonnement, il y a une hésitation et puis l'histoire du code est invraisemblable.
Donc c'est quelque chose, ce sauvetage des objets, des reliques qu'ils font tous ensemble. Fournier, il a quel rôle là-dedans? C'est lui qui donne l'impulsion? C'est lui qui motive les troupes?
Fournier, c'est sa mission. Fournier, il est chevalier d'un ordre particulier qui est chargé de défendre la Sainte Couronne. Ça fait partie de ses attributions. Fournier, il est... C'est le premier prêtre qui va pouvoir rentrer alors que Notre-Dame est devenue un sanctuaire interdit à tous, où seuls les pompiers peuvent encore pénétrer.
Alors cette couronne sacrée, il y a quand même quelque chose que je veux dire ici, c'est que certes l'Église catholique dit que c'est la couronne du Christ, qu'il n'y a aucune certitude là-dessus, c'est comme le Saint-Suaire de Turin, c'est comme le clou, c'est comme le morceau de la vraie croix, ce sont possiblement de vraies reliques, ce sont possiblement de faux objets, personne n'a jamais pu dire si c'était vrai, faut le dire ça quand même, parce que vous dans le bouquin on vous sent enthousiaste, mais bon moi quand même j'ai une petite lumière qui s'allume, je suis pas sûr que c'est la vraie croix, je suis pas sûr que c'est la vraie couronne.
En tout cas ils se sont battus pour la récupérer.
Ouais. Eux, ils en sont sûrs, en tout cas.
Ah oui, intimement convaincu, oui, oui. Intimement convaincu, il va prendre tous les risques pour aller la sauver des flammes. Et puis, il va prendre une deuxième fois tous les risques pour aller sauver une miette de pain. Et ça, vous l'avez raconté encore.
Ah, ça, c'est
encore
fascinant. Donc, ça, c'est... Alors, ça s'appelle comment, ça, ça
a l'hostie
un... Oui, l'hostie, mais derrière, ça a un...
La présence réelle.
La présence réelle.
C'est le corps du Christ, l'hostie. Ouais. Vous savez qu'on a bâti des cathédrales et des églises, pas seulement pour abriter des cérémonies ou des messes, mais pour faire autant de temples consacrés à ce petit bout de pain-là. C'est pour héberger ce petit bout de pain-là qui est le symbole du Christ.
Et donc, lui, il ne peut pas imaginer que le feu tombe sur le corps du Christ, quoi.
Non. Non.
C'est de la symbolique, hein, rien
oui.
de plus.
Oui, oui.
Et il prend des risques, parce qu'à ce moment-là, quand même, les poutres tombent.
Les poutres tombent. Quand il retourne une deuxième fois dans Notre-Dame pour aller chercher l'hostie, il faut se figurer la situation, quoi. Le toit est encore en train de s'effondrer. Il y a cette cascade de plomb, puisque c'est le
plomb fond.
Le plomb fond, c'est quoi? C'est ces tubes qu'on est en train de retirer aujourd'hui. C'est le toit, c'est la charpente, c'est les restes de la flèche qui étaient couvertes de plomb. Tout ça, c'est un brasier. Et il a son casque. Il y a plus personne à l'intérieur. Hein, à ce moment-là, le général Gallet, qui est un homme avisé, a fait sortir ses équipes parce que le toit s'est effondré, parce que la flèche s'est effondrée, et il n'est pas question de perdre d'hommes. C'est un homme avisé qui a déjà vécu comme ça des situations dramatiques, qui a perdu des hommes sur une autre opération quelques mois plus tôt. Il est hors de question d'en perdre. Donc il a cette préoccupation là en tête, mais le père Fournier a sa mystique chevillée au corps. Il a son idée et il faut qu'il y retourne.
Et puis, il y a cet épisode du code, donc, que tout le monde a oublié. Enfin, on n'arrive pas à joindre les gens qui ont le code. Et le type qui est censé avoir le code l'a oublié. Il s'en souvient partiellement et finalement, il l'a par SMS de la part d'un sacristain. Là encore, quand même, il y a un truc qui ne va pas dans le système.
C'est Laurent Pratt qui me raconte ça. C'est lui qui était devant le coffre à ce moment-là, c'est lui qui cherchait désespérément le code, et puis il me dit, c'est Sébastien, dans un moment de panique, dans un moment d'urgence, je me souvenais plus, mais bon, au dernier moment, il y arrive quand même.
Hein. Oui, enfin, le sacristain lui envoie le code.
Ouais, ils retrouvent le code, et puis ils mettent la main sur le trésor, ils arrivent à le sortir de là.
Mais il y a un côté, pardon, ce qu'on comprend, c'est que, bon, il y a la sécurité de Notre-Dame, mais qu'en fait, tout ce qui est secret et important, c'est les curés qui ont ça sous le boisseau. Et que donc, c'est pas très professionnel, en fait, eu égard à l'importance du trésor et du bâtiment.
Voilà, on est face à un trésor immense, et puis après, c'est de l'humain. Mmh. Après, c'est de l'humain, avec des moments de panique, avec des moments d'hésitation, avec des erreurs commises, avec ce grotesque dont je vous parlais tout à l'heure pour le boîtier qui indiquait la mauvaise zone pour aller chercher la source de l'incendie. Eh oui, les...
Non, mais je veux dire, il y avait une gestion hasardeuse, ça changera sans doute. Il n'est pas normal que le chef de la sécurité de Notre-Dame n'ait pas le code, en vérité. Voilà, c'est tout simple. Que ça soit un sacristain qui est dans sa sacristie.
Il l'avait, Laurent Prade avait le code, il s'en souvenait plus.
Ouais, ça
il
c'est autre chose.
Il s'en souvenait plus. Ouais. Ouais,
c'est un choc traumatique.
C'est un choc traumatique. Il avait le code, bien sûr, mais il s'en souvenait plus.
Passionnant bouquin, en tout cas. Vous m'avez beaucoup facilité le travail parce que c'est exactement le genre de bouquin que je cherche pour raconter des histoires. Ça s'appelle Dans les flammes de Notre-Dame. C'est beaucoup plus complet que ce que j'ai raconté aujourd'hui. C'est signé Sébastien Spitzer et ça paraît chez Albin Michel.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.